Slate Podcast.
Bonjour, c'est Lucille Bélan. Tous les 15 jours dans C'est compliqué le podcast, je réponds à vos questions sur les relations humaines. Amour, amitié, sexe, bref, tout ce qui vous touche, vous fait souffrir et vous préoccupe. Cette semaine, nous entendrons le témoignage de Mathilde, 26 ans, amoureuse des chiens, qui a décidé de ne pas en adopter un parce qu'elle habite à Paris, dans un appartement qu'elle juge trop petit pour le bonheur d'un animal. Elle souffre de sa décision et la question vire pour elle à l'obsession.
Salut Lucille, je m'appelle Mathilde, j'ai 26 ans, j'habite à Paris et en fait je voulais avoir tes conseils parce que j'ai très envie d'avoir un chien. Alors je sais, ça peut paraître un peu bête, mais pour moi c'est un vrai sujet. J'ai grandi avec des chiens, chez mes grands-parents, chez mes parents, j'ai toujours eu des chiens autour de moi et depuis 10 ans maintenant, mon dernier chien est mort. Et c'est un vrai truc difficile dans ma vie de ne pas avoir de chien. Mais comme je te l'ai dit, j'habite à Paris, dans un appartement qui fait 45 mètres carrés, mais bon, ça reste un appartement. Et il n'y a pas beaucoup d'espace vert autour de chez moi. Du coup, je ne veux pas prendre de chien parce que je me dis qu'il sera malheureux et que je ne pourrai pas m'en occuper correctement, que ça ne sert à rien d'en prendre un pour moi. Et c'est très égoïste par rapport à ce pauvre petit chien qui n'a rien demandé. Mais d'un autre côté, ça tourne un peu à l'obsession chez moi. Je passe mes journées sur Instagram à regarder des chiens. Avec mes potes, on s'envoie des photos, etc. Dès que je croise un chien dans la rue, j'ai envie d'aller le câliner. Du coup, je ne sais pas trop quoi faire par rapport à ça. Comment gérer le manque, même si je sais que ce ne serait pas bien pour le chien d'être chez moi, puisque je n'habite pas dans les bonnes conditions. Comment gérer tout ça? Voilà, merci. Si tu peux m'aider, ce serait vraiment sympa.
Chère Mathilde, je suis ce qu'on peut appeler une mémère à chat. J'ai 3 chats dans la maison où grandissent mes enfants, une maison sans extérieur, et à mon domicile à Paris, j'accepte avec grand plaisir de nourrir ou câliner tous les chats des voisins qui décident de venir passer une tête. Ce que j'ai appris en 15 ans avec des chats dans ma vie, c'est que leur mode de vie s'adapte au nôtre. Même si ce mode de vie est aussi bizarre et spécifique que le mien. Par exemple, mes chats ne sortent jamais, et leur personnalité ne les pousse pas plus que ça à aller dehors. Est-ce que je me sens coupable d'avoir modifié leur nature à ma convenance? Pas plus qu'en les nourrissant avec des croquettes ou en les obligeant à faire leurs besoins dans une caisse remplie de silice. Je sais que la relation que nous partageons va au-delà des besoins primaires de leur catégorie animale. On partage de l'amour, on partage des années de vie et des souvenirs ensemble. Et comme j'ai adopté ces animaux, je sais que la vie que je leur offre est plus heureuse que celle qu'il ou elle aurait eue dans la rue. C'est ce que j'aurais tendance à me dire pour les chiens aussi. Même si leur instinct me semble plus fort que nos chats de la génération Internet hyper anthropomorphisée, je pense que les chiens sont heureux de partager la vie d'un humain qui les aime et les respecte. Même si cet humain n'a pas les moyens pour leur acheter les meilleures croquettes, même si cet humain ne peut pas les emmener dans des parcs immenses chasser des écureuils. Il y a évidemment aussi des races de chiens qui s'accommodent plus que d'autres des contraintes urbaines. Vous ne m'entendrez pas vous dire « Mais oui, bien sûr, prends un bouvier bernois dans ton 40 mètres carrés. » Mais je crois que le chien que vous pourriez adopter ne vous reprochera jamais de lui offrir une vie urbaine si elle n'est pas trop éloignée de sa nature profonde et si vous lui donnez suffisamment d'amour et d'attention pour le combler au quotidien. Je pense en fait que vous pouvez rendre un chien heureux. Et je pense aussi que ce n'est pas honteux de dire qu'on a besoin d'un chien dans sa vie. Je ne m'imagine pas vivre sans mes chats. Je sais combien ils m'apportent au quotidien. Ce que j'essaye de leur rendre en câlins, en sachets de nourriture humide hors de prix, ou en leur laissant la meilleure place du fauteuil. Je crois que dans nos vies stressantes, on peut avoir besoin d'un animal autant qu'ils peuvent avoir besoin de nous. Et qu'il faut relativiser notre rapport à leur vie, par rapport à ce qu'ils pourraient vivre en général. Ces animaux sont là. Ils sont parfois en refuge depuis des années. Vous pensez vraiment qu'une vie avec vous serait moins belle que des années en refuge, ou dans une famille maltraitante, ou chez des gens qui font le geste d'abandonner à la moindre difficulté? Vous pouvez vous faire confiance et faire confiance à l'animal pour exprimer ses besoins. Je croise dans ma vie parisienne des chiens très heureux, qui ne me semblent pas penser, à chaque seconde, à ce que leur vie serait s'ils habitaient dans des manoirs en plein milieu d'une campagne verdoyante. Ils sont heureux d'être aimés, de jouer, d'être au chaud quand il fait froid, d'être gâtés souvent. Ils ont une belle vie. Je suis la première à perdre pied sur cette question, à rester paralysée par l'angoisse, à l'idée de ne pas offrir à mes proches la vie qu'ils méritent. Je me dis que mes enfants seraient 1000 fois plus heureux si la maison avait des pièces en plus, s'il y avait un grand jardin, que les chats seraient en meilleure santé s'ils vivaient à la campagne et s'ils pouvaient chasser des oiseaux, que mon compagnon même serait plus épanoui s'il partageait sa vie avec quelqu'un d'autre, quelqu'un avec un travail moins prenant. Dans le pire des cas, j'imagine la personne avec qui chacun et chacune serait mieux dans sa vie. J'ai dans ma tête une galerie de personnages qui feraient potentiellement mieux le job d'être moi, à ma place. Et puis je me rappelle que mes enfants préfèrent 1000 fois faire des activités à la maison que d'aller au parc, que l'un de mes chats a la phobie de l'herbe, que mon compagnon répète à longueur de journée qu'il ne veut m'échanger contre personne d'autre. Je suis moi, avec ma vie, mes qualités et mes défauts, et même si je n'arrive pas souvent à y croire, je rends des gens et des animaux heureux. La question ici ne me semble donc pas de prendre ou pas un chien dans votre vie, mais bien de trouver le bon chien, avec qui partager la vie que vous avez déjà. Un chien qui vous aimerait comme vous êtes, et que vous aimeriez en retour. Et pour qui la question d'une autre vie imaginaire, mais plus heureuse, ne se poserait même pas. Parce que la perfection serait ces moments que vous passez ensemble, même dans une ville polluée, même avec des espaces verts trop petits. Pour parler de bonheur animal, j'ai interviewé Julie Faure, éducatrice et comportementaliste canin. Les chiens sont-ils toujours malheureux en appartement ?
Alors moi j'ai envie de dire non, pour plusieurs raisons. De base, les animaux, ils ont besoin de nourriture, d'être en bonne santé, de ne pas avoir froid, de ne pas avoir faim, de ne pas avoir soif. Enfin, voilà, c'est vraiment les besoins principaux du chien qui vont être un peu les mêmes que les nôtres. Alors après, il est possible que des chiens qui habitent en maison, par exemple, soient plus malheureux que des chiens qui habitent en appartement. Pourquoi ? Parce que en général, les gens ont tendance à penser que parce qu'ils ont un jardin, voilà, le fait de laisser le chien dans le jardin, ça leur permet de se dépenser, voilà. Mais en fait, pas du tout. Un chien, c'est un animal qui est à la base sociable, qui a besoin d'interagir déjà avec ses congénères et aussi avec le monde extérieur. Donc un chien, ça renifle, ça adore les odeurs, ça adore voilà, découvrir de nouvelles choses. Donc si vous êtes en appartement, mais que vous sortez régulièrement votre chien, il n'a aucune raison d'être malheureux.
Est-ce qu'il y a le moyen de rendre un chien heureux avec les problématiques de vie qu'on a aujourd'hui ? Alors, je précise, hein, je pense à nos rythmes de travail, aux appartements qui sont plus petits, ou à la pollution, par exemple. Est-ce que vous pensez, puisque vous êtes spécialiste, qu'on peut quand même offrir une belle vie et rendre son animal heureux malgré tout ça ?
Alors oui, j'en suis même persuadée. Après, j'imagine que tout maître responsable a dû prévoir ce genre de choses avant même d'avoir un animal, que ce soit pendant le confinement ou avant le confinement. Pour parler de moi, de moi avec mon chien par exemple, je travaille quand même beaucoup, je me déplace chez les clients, donc qui rencontrent des problématiques avec leur chien. Et il s'avère que ma priorité, c'est déjà je m'occupe de mon chien, après je vais travailler. Et dès que j'ai un moment où je peux rentrer chez moi pour m'occuper de mon chien, je prends ce moment. Si jamais, pour x ou y raison, je ne peux pas revenir, par exemple, après 5 ou 6 heures d'absence, je vais faire en sorte que le soir, une très très longue balade soit programmée pour que mon chien puisse se dépenser et puis prendre du plaisir, rattraper le temps en fait qu'on n'a pas passé ensemble.
Comment on voit que son chien n'est pas heureux avec la vie qu'on lui offre et comment on change ça ? Est-ce qu'on peut changer ? Est-ce que quand on a rendu son animal un peu malheureux, est-ce qu'on peut rattraper les choses ?
Oui, tout à fait. Alors après, le principe du bonheur chez le chien, c'est un principe quand même qui est assez humain. Enfin, c'est très humain de penser qu'un chien est heureux ou malheureux. Alors bien sûr, les chiens ressentent des émotions, hein, comme tout être vivant, j'ai envie de dire. Mais je pense que nous, on se fait une idée vraiment du malheur comme quelque chose de vraiment terrible, d'atroce, ce qui est le cas, hein, en soi. Après, un chien peut ressentir de l'ennui, effectivement. Si d'habitude le maître l'emmène en forêt faire des longues balades, ou alors s'il a l'habitude de faire du sport, parce qu'il y a beaucoup de maîtres qui font du sport avec leurs chiens, voilà, les gens qui aujourd'hui sont amenés à être toujours en télétravail, qui ont très peu de possibilités de sortir, par exemple, ça peut mener à un chien qui est un peu désintéressé de tout. Il peut y avoir plusieurs manifestations, notamment psychiques, en fonction du terrain anxieux, on va dire, du chien. On peut avoir des réactions type augmentation de la destruction, donc des objets, par exemple, que ce soit des objets appartenant au maître ou des objets appartenant au chien. Donc, ça peut être le panier, ça peut être les jouets, enfin, plus que d'habitude. On peut avoir des chiens qui vont avoir des troubles de l'appétit, que ce soit manger plus ou manger moins, donc des chiens qui vont se laisser un peu abattre. Voilà, donc les manifestations sont vraiment, en fonction d'un individu, sont totalement différentes. Maintenant, c'est au maître, j'ai envie de dire, de se rendre compte et de regarder son chien, parce qu'il n'a pas la parole forcément. Il n'y a qu'en regardant votre chien que vous serez capable de déterminer si quelque chose cloche ou non. Ça va passer par l'attitude corporelle de votre animal, ça va passer par son regard aussi, hein, mine de rien. Ça va passer par ses habitudes de vie qui auraient éventuellement changé. Par exemple, votre chien a l'habitude de se coucher dans un endroit particulier, et il va commencer à changer d'endroit, à bouger beaucoup de place, enfin, voilà, à présenter des signes d'inconfort, on va dire, de malaise. Après, voilà, faut savoir que c'est totalement remédiable. Il suffit juste de passer un petit peu plus de temps, de sacrifier un petit peu plus de temps avec le chien pour essayer d'inverser la tendance.
Et puis j'imagine aussi que toutes ces problématiques sont aussi liées aux races de chiens. Un chien effectivement qui va être par exemple un grand format de chien, qui va avoir besoin de beaucoup se dépenser, n'a pas forcément les mêmes besoins de sortie par exemple et de sport qu'un chien qui va être plus petit ou de race plus flemmarde, je dirais presque, non?
Oui, alors effectivement, y a une multitude de races de chiens qui existent aujourd'hui. Alors la taille. Ça peut avoir un impact, oui et non. On va prendre l'exemple du Jack Russell. Je pense que vous voyez à quoi ça ressemble.
Oui, c'est une race très à la mode, mais qui est très vivante, non ? Qui a besoin de se dépenser.
Voilà, donc c'est un petit gabarit, hein, on est d'accord. Mais par contre, ça reste du chien qui, à la base, était utilisé pour la chasse. Donc, c'est un chien qu'on appelle terrier, de type terrier. Donc, ce sont des chiens vraiment très actifs, qui ont besoin de renifler, de marcher, de courir, d'être stimulés intellectuellement, physiquement. Alors qu'à côté de ça, vous allez prendre, par exemple, un Saint-Bernard. Donc, c'est un chien de très, très, très grand gabarit. Ça va être un chien qui va être beaucoup moins endurant. C'est-à-dire, un Jack Russell, il va courir, il peut courir 2 km sans problème. Il ne va pas être essoufflé, il va être en pleine forme. Vous prenez un Saint-Bernard, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais ça n'empêche qu'il a besoin quand même de se dépenser, sauf que ça va être d'une manière différente.
Oui, donc en fait, il faut aussi, dans son projet d'adoption, réfléchir donc à ses problématiques de vie, mais potentiellement, il existe suffisamment de races de chiens pour pouvoir s'adapter aussi en fonction donc des besoins de l'animal. En plus de sa personnalité, il y a aussi des caractéristiques liées aux races.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Par exemple, je ne sais pas, si vous êtes une personne un peu âgée, mais qui reste en forme, qui a un petit appartement, qui peut sortir son chien que 3 ou 4 fois par jour, et qu'elle a envie d'acheter un malinois, un berger belge, moi, je déconseillerais. Un berger belge, voilà, c'est des chiens de travail exceptionnels. Ça peut être des chiens de berger aussi, qui ont besoin d'être aussi énormément stimulés, tant mentalement que physiquement. Et il se peut que ce profil de chien ne corresponde pas avec la personne âgée qui a beau être en forme, mais qui ne pourra pas assurer derrière les besoins du chien, quoi. Enfin, qui typiquement sont se dépenser. Voilà. Après, prendre un bichon, on ne va pas rentrer dans les préjugés, mais on va dire qu'une race type bichon sera plus adaptée à ce type de personne, ce profil de personne.
Oui, puis même à la vie en ville, j'imagine, de toute façon, parce que c'est des chiens qui n'ont pas forcément besoin d'aller courir 15 km par jour.
Exactement. Et ça va être des chiens aussi plus disposés à rester tranquillement en intérieur, à avoir des gratouilles. Enfin voilà, on appelle ça des chiens de compagnie, vraiment des chiens d'agrément, dits d'agrément. Alors qu'un berger belge malinois, par exemple, va plutôt rentrer dans la catégorie chien de travail, chien de berger. Voilà, donc c'est vraiment deux races totalement différentes qui ne sont pas utilisées, on va dire, pour les mêmes raisons. Voilà. Ou adopter pour les mêmes raisons.
Oui, puis c'est, bah, donc c'est aux gens de faire leurs recherches avant et puis de prendre des décisions en leur âme et conscience par rapport à ça, dans une, enfin, en fait, ce genre de prise de décision de responsabilité presque.
Oui, c'est vraiment une très très grosse responsabilité parce que, comme vous le disiez bien tout à l'heure, par exemple, Jack Russell, donc il y a eu un effet de mode, c'était surtout après la sortie du film The Mask à l'époque. Il y a eu d'autres effets de mode comme ça, il y a eu Le Cocker avec Bully Bill. Il y a eu beaucoup de Beagle aussi ces dernières années. Beaucoup de bergers australiens, donc ça c'est une race qui a été hyper à la mode sur ces deux dernières années. Ça pose des problèmes parce qu'il y a des élevages qui vont produire du chiot intensivement, donc qui vont pas forcément faire des bonnes sélections au niveau des reproducteurs, parce que vous allez avoir des gens qui vont vous dire « voilà, moi je veux un berger australien qui a les yeux bleus, qui a cette couleur et qui fera cette taille ». Là, on peut s'attendre à avoir des problèmes de comportement liés à une mauvaise sélection des reproducteurs. Et de ce fait, ça peut amener à des abandons. Parce que les personnes se rendent compte qu'au bout d'un moment, le chien n'est pas fait pour leur style de vie. Ils s'attendaient à avoir un chien plus calme. On ne leur avait pas dit que le chien aurait besoin de se dépenser quotidiennement. Voilà. Donc, il faut vraiment bien prendre en compte le fait qu'un chien peut être très beau, très joli, avoir une super bouille, ça ne veut pas forcément dire pour autant qu'il sera très 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 calme ou très 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 gentil, si on peut utiliser le terme gentil. Voilà, vous allez avoir des chiens qui vont être beaucoup plus réservés que d'autres. C'est comme nous, les humains. Donc vraiment faire attention déjà à la caractéristique propre à la race qui nous intéresse. Mieux vaut ne pas acheter un chien d'une race dont les besoins ne correspondent pas à notre style de vie plutôt que de tenter le coup. Ça fera trop de dégâts déjà au niveau du chien et même au niveau de la famille humaine, quoi. Ça reste un échec, ça peut être considéré comme un échec. Et puis les refuges sont débordés, vraiment sont débordés. Donc c'est vraiment un projet qui mérite d'être mûri et très réfléchi de par le fait que finalement on est responsable d'une vie, enfin d'un être qui est vivant, qui ne peut pas communiquer avec nous comme on le souhaiterait forcément. Donc voilà, c'est très important, je pense, de se poser les bonnes questions avant d'acheter un chien impulsivement.
Oui, puis en plus, comme on parlait de refuges et sur le fait qu'ils étaient surpeuplés, même globalement, je pense qu'on peut dire que l'adoption plutôt que l'achat, c'est quelque chose qu'on peut réfléchir dans son geste. Est-ce que vous avez des conseils culturels, je pense à des livres, des films, des séries télé, sur cette problématique de l'adoption et donc à la fois de peut-être qu'est-ce qui se passe quand ça se passe mal et puis peut-être qu'est-ce qui se passe ou quels conseils on peut avoir quand ça se passe bien?
Concernant les personnes qui souhaiteraient adopter un chien et qui sont un peu novices, on va dire, dans le domaine, alors je conseille un livre qui s'appelle « Le guide pratique du comportement du chien », qui est écrit par Edith Beaumont-Graff, donc édité aux éditions Erol. Donc c'est un livre qui est totalement accessible au grand public, qui va vous expliquer un petit peu les principaux cas de figure que vous êtes amené à rencontrer avec votre chien et qui pourrait vous déstabiliser. Donc c'est écrit d'une manière assez drôle, je trouve. Enfin c'est très léger, les sujets sont abordés vraiment avec humour, on va dire, et en même temps sérieux. C'est une petite bible, je trouve, assez intéressante à avoir quand on est propriétaire ou quand on veut devenir propriétaire d'un chien. Un autre livre qui me paraît essentiel vraiment d'avoir sur sa table de chevet quand on a un chien, principalement, ça va être un livre qui va parler en fait des signaux d'apaisement donc que vont émettre les chiens. Donc c'est un peu leur manière de communiquer en fait. Donc ce livre qui a été écrit par Turid Rugas donc s'appelle Les signaux d'apaisement, les bases de la communication canine. C'est un livre vraiment indispensable qui va vous donner beaucoup de réponses aux questions que vous pouvez vous poser concernant votre chien. Pourquoi est-ce qu'il est agressif avec le chien de la voisine? Je comprends pas, alors qu'au début, ils étaient amis. Voilà. Donc, c'est un livre vraiment qui va vous donner toutes les clés nécessaires pour bien décoder votre chien, apprendre à lire sur son corps tous ces mouvements corporels qui veulent dire beaucoup de choses et qui nous paraissent parfois banales. C'est-à-dire, oh, mon chien bouge la queue, ça veut dire qu'il est content. Eh bien, pas forcément. Un chien peut bouger la queue pour de nombreuses raisons et justement en fonction des situations dans lesquelles ce mouvement de queue va se produire, bah, il peut y avoir différentes raisons. Ça peut être l'agressivité, ça peut être l'excitation, ça peut être la peur, ça peut être la joie, voilà. Donc ça, c'est un livre vraiment définitivement à avoir sur sa table de chevet.
Pour aller plus loin, je vous conseille cette semaine de découvrir ou redécouvrir le compte Instagram américain de Kitten Lady. Malgré son nom, cette influenceuse engagée recueille dans son refuge et via son association des chiens comme des chats, et même parfois aussi des canards et des cochons. En plus de partager des photos mignonnes, elle donne des conseils au quotidien sur la prise en charge des animaux en bas âge, mais également sur l'engagement que les humains peuvent décider de prendre sur le bien-être animal en général, que ce soit dans la stérilisation de masse des communautés de chats au sein des quartiers, ou encore la mise en place de circuits de solidarité pour la prise en charge d'animaux abandonnés ou malades. C'est une véritable inspiration au quotidien si vous aimez les animaux et souhaitez réfléchir à comment leur offrir une vie meilleure dans la société dans laquelle on vit. C'était C'est compliqué le podcast. Merci au merveilleux Benjamin Septem-Ours et Aurélie Rodriguez pour la réalisation et le montage. Si vous aussi vous voulez témoigner, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à c'estcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail c'estcompliqué@slate.fr et la chronique hebdomadaire restent toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir, laisser un commentaire ou en parler autour de vous. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.